Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. Et maintenant, il va falloir s'entendre et attendre. Pas de majorité absolue à l'Assemblée à l'issue du second tour des législatives. Aucun des trois blocs n'est donc en mesure de gouverner seul. La gauche, arrivée en tête, revendique le pouvoir. L'ancienne majorité, elle, n'a pas renoncé à son projet de grande coalition.
C'est la plus grande surprise électorale de toute notre histoire. Rien ne peut s'y comparer.
Une première dans l'histoire politique de la France, dit Alain Duhamel sur BFM TV, lors de cette soirée électorale du 7 juillet. Une assemblée divisée en trois blocs, un mois après la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Ce 7 juillet donc, certains se voient gagnants, d'autres accusent le coup.
Le Rassemblement National avait gagné le premier tour et le Rassemblement National a complètement perdu le deuxième. En ce sens, pour lui, c'est l'élection des dupes.
Le RN a perdu donc. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella est très loin de la majorité absolue. Pourtant, pendant l'entre-deux-tours, le président du RN s'y voyait déjà.
Sur la relation que j'entends avoir avec le président de la République, c'est peut-être la différence d'ailleurs avec Premier ministre que nous avons connu depuis 2017, et peut-être plus avec Gabriel Attal, c'est que je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Toute la Constitution, rien que la Constitution. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation.
Depuis les résultats du RN, les éléments de langage des candidats du Rassemblement National sont les mêmes partout.
C'est à cause des désistements de ces triangulaires. Il y a eu une sorte de front républicain qui s'est mis en marche.
Le barrage a encore bien fonctionné cette fois-ci. C'est assez difficile à encaisser, effectivement, parce que j'avais 9 points d'avance au premier tour.
Mais très clairement, on a eu le droit à des coalitions indigestes, infamantes.
C'est ce genre de pratique insupportable.
Oui, mais c'est vos pratiques.
Mais non,
c'est
vos pratiques.
De son côté, donc, le nouveau Front populaire a fait bloc.
Effectivement, le nouveau Front populaire a fonctionné impeccablement, autrement on n'arriverait pas à ces chiffres-là.
Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Écologistes.
Ce soir, la justice environnementale a gagné. Et ce soir, le peuple a gagné. Et ça ne fait que commencer.
Enfin, la coalition présidentielle Ensemble a perdu sa majorité relative, mais en sauvant les meubles.
Le groupe de la majorité sortante, appelons-le Ensemble, j'insiste sur quelque chose que je ne savais pas, mais que j'imaginais, qui est qu'il jouera forcément dans cette législature le rôle du groupe charnière.
En un mois donc, et après dissolution de l'Assemblée, les Français ont choisi une autre majorité relative. Dans l'hémicycle désormais, le nouveau Front populaire est devenu le mouvement politique le plus représenté, avec 182 sièges, devant Ensemble, 163 sièges, et devant le Rassemblement national et ses alliés, qui passent à 143 sièges. C'est 54 de plus que lors des dernières législatives. Enfin, les Républicains et leurs alliés divers droites obtiennent 68 élus dans la nouvelle Assemblée nationale. Alors question, que va-t-il se passer maintenant? Il y a quelques semaines, sur BFM TV, Roselyne Bachelot et Alain Duhamel avaient une hypothèse.
Non mais Alain, ce qui sort de ça, c'est que le merdier va continuer. C'est
non,
qu'il y a 80% de chance qu'il soit de majorité.
Je ne suis pas du tout d'accord. Il ne va pas continuer. Il va s'amplifier des mesures.
Il va s'amplifier.
C'est pas du tout pareil.
Le merdier va s'amplifier, c'est la conclusion.
Le merdier va s'amplifier.
Ben oui, voilà. Mais bien entendu.
Merdier ou pas merdier, il va falloir prendre les choses dans l'ordre. Le soir des résultats, ce 7 juillet, Gabriel Attal prend clairement ses distances avec le chef de l'État.
Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats Ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre. Mon engagement dans cette campagne était pour moi un devoir. Dès le début de cette campagne, j'ai alerté sur trois risques. Le risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise, le risque d'une majorité absolue dominée par le Rassemblement national et le risque d'une disparition du mouvement qui incarne nos idées et nos valeurs.
Gabriel Attal qui non seulement prend ses distances, mais surtout se projette dans l'après-Macron.
Mesdames et messieurs, Ce soir, une nouvelle ère commence. Il faudra inventer quelque chose de neuf, de grand, d'utile. Pour cela, nous devrons assumer de tout remettre en question. Dès demain, notre espace politique devra se mettre au travail pour bâtir une offre politique nouvelle. Pensez toujours et avant tout aux Français.
À 11h15, ce 8 juillet, Gabriel Attal remet sa démission à Emmanuel Macron. Démission refusée par le chef de l'État. Tanguy Delanlet sur BFM TV.
Démission refusée, Gabriel Attal reste Premier ministre, pas de gouvernement, démissionnaire et pas de changement pour le moment, pour assurer la stabilité du pays, affirme le Palais de l'Élysée.
Cette décision n'est pas vraiment une surprise. Le chef de l'État a décidé d'attendre la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires, conformément à la tradition républicaine. Si Gabriel Attal a choisi de s'émanciper donc, mais devra attendre encore un peu, une autre voix s'élève ce 7 juillet, celle d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Comme l'écrit le journal Le Monde, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps lors de la soirée électorale pour que le président d'Horizon décoche sa première flèche contre Emmanuel Macron.
La décision de dissoudre l'Assemblée nationale, qui devait être un moment de clarification, a au contraire conduit à une grande indétermination.
Édouard Philippe, qui se dit prêt à endosser le rôle de reconstruire un espoir, avec bien sûr, en ligne de mire, 2027.
Nous allons devoir écouter le pays, regarder le monde et la réalité en face, travailler d'arrache-pied afin de proposer aux Françaises et aux Français un projet cohérent et solide. Ce travail, j'y suis prêt. Il ne peut pas être l'œuvre d'un homme seul ou d'un petit groupe d'experts. Il doit rassembler les intelligences les plus nombreuses, les expériences les plus variées, les enthousiasmes les plus résolus. Je les invite à me rejoindre et je me tiens à la disposition de ceux qui veulent, dès ce soir, participer à la reconstruction d'un espoir.
D'autres voix s'élèvent et imaginent aussi quelque chose de nouveau à l'Assemblée, comme Clémentine Autain, ce 8 juillet sur RMC et BFM TV, face à Apolline de Malherbe.
Moi, je souhaite appartenir à un nouveau groupe politique qui soit capable à la fois de défendre fortement l'union comme stratégie, le programme du nouveau Front populaire, et qui se fasse dans un cadre de démocratie, de pluralisme assumé et pas caporalisé. Voilà, c'est ça que je ne veux plus. Et je pense que c'est notre crédibilité aussi sur ce terrain-là de la démocratie que d'avancer vers une logique qui soit celle qui nous ressemble, en fait, ressemble à ce qu'elle a.
Bref, le chemin s'annonce long et escarpé. Notons par ailleurs que la nouvelle Assemblée nationale n'atteint toujours pas la parité femmes-hommes. Au total, 208 femmes ont été élues députées contre 215 en 2022. Un chiffre en légère baisse depuis 2017 qui avait vu 224 femmes siéger au Parlement. Et pour nous éclairer sur cette situation politique inédite, je suis avec Pauline de Saint-Rémy, chef du service politique France chez Politico. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et avec Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Bonjour Thomas.
Bonjour Céline.
Tout l'après-midi, de nouveaux députés sont arrivés au compte-gouttes à l'Assemblée pour prendre leurs fonctions, pour prendre leurs marques. Mais évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est qui pour gouverner ? Emmanuel Macron a refusé la démission de Gabriel Attal le temps que l'Assemblée se structure. Pauline de Saint-Rémy, ça peut prendre combien de temps avant la nomination d'un nouveau Premier ministre ?
Alors ça, c'est la question. À ma connaissance, il n'y a pas de limite théorique à cette situation. On savait depuis quelques jours qu'Emmanuel Macron avait l'intention de temporiser, quoi qu'il arrive, à l'issue du second tour, quels que soient les résultats, ne serait-ce que pour prendre le temps de laisser la poussière retomber. Officiellement, il s'agissait d'apaiser le pays. C'est, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait du côté de l'Élysée. Mais il y avait aussi une dimension stratégique à ça. Quelque part, c'était une façon de bien montrer qu'à ses yeux, il n'y a pas de vainqueur évident à ce stade. Toujours est-il que donc l'Élysée a l'intention de laisser durer cette situation jusqu'à ce que la situation politique s'éclaircisse à l'Assemblée nationale. Et ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs semaines peut-être.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Thomas Soulier ?
Non, l'entourage du président, pour rejoindre ce que dit Pauline, dit ce matin, ça ne sert à rien, je cite, d'aller trop vite. Ça va se décanter pour construire une majorité de projets. Donc on a encore l'espoir en Macronie que ce bloc central soit prédominant et que ce bloc central permette de créer une union politique alors que ce bloc central est arrivé deuxième et pas premier hier soir. On a l'impression depuis ce matin que quand on écoute sur BFM TV tous les élus, députés, ministres, qu'ils ont gagné ce dimanche soir alors qu'ils sont plutôt deuxième.
Théoriquement, le président de la République a le pouvoir de nommer qui il veut à Matignon, mais il y a une logique institutionnelle. Manon Aubry, députée européenne LFI, a déclaré ceci.
On a prédit dès la première heure de notre victoire que le nouveau Front populaire éclaterait. Je fais partie de celles et ceux qui ne le souhaitent pas parce que, en fait, ça correspond à l'attente des Françaises et des Français.
Mathilde Panot, elle estime que Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié pour Matignon. Et puis Manuel Bompard, cet après-midi, coordinateur de la France Insoumise, a déclaré que les choses avançaient très bien. Pauline de Saint-Rémy, comment le nouveau Front populaire peut-il trouver un consensus? Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit.
Ça sera très difficile. Sur le papier, j'aurais envie de vous dire que c'est quasiment impossible. Quand on prend les prises de position hier soir de Jean-Luc Mélenchon, qui était quasiment à dire en gros que la gauche pourrait gouverner par décret, c'est-à-dire sans vraiment former de coalition. Parce que rappelons qu'à eux seuls, ils n'ont pas la possibilité de gouverner en théorie. Donc la gauche aussi, si elle veut gouverner, a besoin d'aller chercher des alliés. Donc si on prend la position de Jean-Luc Mélenchon, qui lui disait quasiment qu'il pourrait y aller de force et gouverner par décret, et celle à l'autre extrémité de cette coalition des gauches, de Raphaël Glucksmann, qui lui a appelé les membres du nouveau Front populaire à se comporter, je crois, en adulte responsable, c'est le mot qu'il a utilisé, reconnaissant donc que la gauche n'était pas à elle seule majoritaire et laissant entendre que lui était prêt à s'ouvrir un petit peu sur sa droite, on se dit qu'ils sont irréconciliables, pour reprendre un terme cher à Manuel Valls, et qu'ils n'arriveront jamais à s'entendre, ne serait-ce que sur un plan stratégique. J'en suis même pas venue encore à la question du programme. Après, c'est vrai qu'il y a encore trois semaines, on se disait qu'ils n'allaient jamais réussir à constituer des listes communes pour les élections législatives. Donc, sait-on jamais? Et puis apparemment, effectivement, ils ont vraiment commencé à y réfléchir, à négocier, et eux se disent assez optimistes sur leur capacité à se mettre d'accord. Quand même, précisons une chose, c'est que Raphaël Glucksmann, à ma connaissance, n'est pas invité, n'est pas présent, en tout cas dans les réunions de négociation qui ont démarré.
C'est ça, Thomas Soulier. Raphaël Glucksmann, qui est quand même arrivé troisième aux élections européennes, il est en retrait là.
Oui, totalement, et c'est vrai qu'il a raté l'après-européenne, il est arrivé avec un plutôt en bon score au soir du 9 juin, sauf qu'une heure plus tard, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, donc clairement on lui a volé la vedette, mais il n'a pas su capitaliser le lendemain et les jours d'après sur ce beau score de la gauche. Donc il est un petit peu en retrait, il est mal structuré, mal entouré, mal organisé, et donc c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas du tout le lead dans ces négociations-là, et on le voit, pour l'instant ça se joue dans chaque parti. Ce lundi, et ils discutent chacun de leur côté. Et preuve, Céline, que l'union, ce n'est pas demain. Ce mardi, à l'Assemblée, les députés arrivent au compte-gouttes. Eh bien, les insoumis vont arriver seuls, les écologistes seuls, le PS seuls. Ils ne sont même pas arrivés à faire une photo de famille avec ces 182 députés. Ça en dit long.
Il faut dire aussi que j'allais rajouter qu'il y a eu un changement de rapport de force au sein de cette coalition des gauches, qui forcément change la donne, avec notamment les socialistes qui sont beaucoup plus nombreux. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais qui sont quasiment aussi nombreux désormais que les insoumis, qui jusqu'à présent avaient un contingent beaucoup plus important. Ça change évidemment la donne pour les négociations.
Jordan Bardella s'est exprimé aussi ce 8 juillet. Le président du Rassemblement national parle d'une victoire aujourd'hui différée et il dit ceci.
Mais il est clair que ces arrangements électoraux qui ont été passés par la Macronie avec l'extrême gauche, non seulement jettent le pays dans une situation d'instabilité qui inquiète beaucoup de Français ce matin, mais privent les Français à la fois d'une alternance démocratique, mais aussi de réponse à leur quotidien, parce que le pays va être sur le plan institutionnel, en tout cas paralysé, du moins ralenti, pendant à minima un an. Et je crois que cette situation n'est viable pour personne.
Thomas Soulier, une Assemblée nationale sans majorité absolue mène-t-elle nécessairement à un pays ingouvernable, comme le sous-entend Jordan Bardella?
Non, parce qu'on le vit depuis deux ans maintenant. Je rappelle que depuis 2022, Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée. Il y a, je crois, de tête, soixantaine de textes qui a été adoptés. Il leur manque 49 voix, mais imaginez la gauche, il leur manque plus de 100 voix pour arriver à la majorité absolue. On se demande comment eh bien, les mesures, les réformes proposées dans le contrat du nouveau Front populaire peuvent être adoptées. Alors c'est vrai, ils disent pourquoi pas par décret. Alors c'est un peu loufoque, hein, parce que les mêmes insoumis ou autres qui dénonçaient les décrets pris par Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne ou Gabriel Attal sont les mêmes aujourd'hui qui disent eh bien on pourrait faire par décret.
Ça, ce serait un gouvernement technique.
Non. En gros, ils disent pour aller vite, on pourrait prendre des décrets durant l'été. Donc le SMIC à 1600 euros ou d'autres choses. Déjà pour ça, il faut un Premier ministre, il faut un gouvernement. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ils disent, comme cet été, on ne va pas beaucoup siéger si on arrive à avoir un gouvernement, on pourra aller vite. En clair, ils se disent, on est condamné à avoir des résultats rapidement. Il faut que le pays ressente qu'ils sont gouvernés par la gauche et pas par la Macronie. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aller vite et cocher des cases rapidement sur les 4-5 points clés de leur programme.
Pauline de Saint-Rémy, est-ce que la situation peut perdurer ainsi, c'est-à-dire avec Gabriel Attal à la tête du gouvernement, pendant des semaines et des semaines sans que rien ne se passe?
Pour l'instant, ça peut arranger un petit peu tout le monde que Gabriel Attal reste à Matignon, le temps notamment pour la gauche, par exemple, de se mettre d'accord sur la stratégie qu'elle veut mettre en place et éventuellement le futur Premier ministre qu'elle serait prête à proposer. En revanche, il est bien évident qu'au bout d'un certain temps, si Gabriel Attal devait toujours être en poste, ce qui n'est pas à exclure, hein, par exemple, après l'été, après les Jeux Olympiques, ça pourrait commencer, ne serait-ce que pour les Français qui ont le sentiment d'avoir voté pour que les choses changent, à devenir un problème politique. Néanmoins, je reviens un peu à ce que je disais au départ, c'est une façon... Emmanuel Macron, précisons-le, n'a même pas accepter la démission de Gabriel Attal, ce qui fait que le gouvernement, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, n'est pas passé en affaire courante, comme on l'avait dit. Donc c'est toujours un vrai gouvernement avec des ministres qui peuvent prendre des décisions avec un impact budgétaire, qui peuvent décider par exemple de passer en état d'urgence. C'est toujours un vrai gouvernement qu'on a aujourd'hui techniquement, et encore une fois, c'est une façon pour Emmanuel Macron, sans le dire, de montrer qu'il considère qu'à ce stade, il n'y a pas de vrai vainqueur de ces élections législatives. Et donc, c'est une façon aussi de jouer le rapport de force entre son propre bloc, le bloc central, et le bloc de gauche, et de dire que tout peut encore arriver, que la coalition peut se former, pas seulement à gauche, mais peut-être avec le bloc central et une partie de la droite, par exemple.
Thomas Soulier, Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole. Est-ce que c'est prévu dans les heures, les jours qui viennent?
Non, certains pensaient qu'il prendra la parole dès dimanche soir, mais il n'a pas voulu prendre les coups, donc il a laissé son Premier ministre le faire. Il part ce mercredi matin à Washington. Il n'y a pas de prise de parole prévue pour l'instant. Ce serait toutefois étonnant que le président, durant les premières 48 heures, ne donne pas une sorte de cap, de deadline, ou pour assurer les Français. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas de réponse, qu'il n'a rien à dire aux Français.
Ou alors c'est simplement une façon, Thomas, de se placer, ça revient un peu à ce que je disais, de se placer au-dessus des partis et de mettre au défi les blocs politiques, justement, de trouver la solution.
Pauline a parfaitement raison, même si je pense que comme il adore parler et commenter, c'est étonnant qu'on ne l'entende pas. Et son entourage est assez bavard depuis ce dimanche soir. Mais en effet, il y a une volonté de se placer au-dessus de la mêlée et de se dire que s'il y a une cohabitation dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, eh bien j'essaie de me protéger d'abord.
Merci Pauline de Saint-Rémy.
Merci Céline, merci Thomas.
Chef du service politique France chez Politico, et merci Thomas Soulier,
avec
chef
plaisir,
adjoint
Céline,
du service politique de BFM TV. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi et tous les soirs sur BFM Radio, dans BFM Soir avec Zachary Legros à 19h30. À demain.